Allez, Vénard, ils sont en vacances, mais vous, ils vous ont préparé un sacré programme. C'est par Jupiter sur France Inter. Allez, hop.
Merci Laetitia Gaillet. Alors nous allons aller rechercher les grands crus de l'émission. On va jeter un coup d'œil dans le rétro en revenant en 2016 et vous allez entendre, c'était le dernier jour de Claire-Sophie Collet, notre attachée de production à l'époque, qui intervient ici pour dire qu'elle s'en va. Salut les amis.
Salut Charlie.
Alors ça va?
Non, ça va pas du tout.
Ah bon?
Il y a la crise dans l'équipe.
Oui. Une crise dans l'équipe.
Oui, les rats quittent le navire.
Mais comment ça?
Oui, c'est moi, je décide de quitter l'équipe.
Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Eh ben voilà, elle fait sa Christiane Taubira.
Oui, je voudrais me reposer un peu.
Mais c'est pas reposant ici.
Non, pas du tout. Ma décision est prise, je vous quitte pour 6 mois.
Je suis trop triste.
Ah ben non, il y en a une qui part, l'autre qui chiale. Non.
Ah ouais, mais je vais être toute seule. Mais non, on est une équipe. S'il y en a une qui part, on va la remplacer.
Mais oui, vous allez me remplacer.
Bah qu'est-ce que ça te fait? De toute façon, lundi tu seras pas là.
Mais pourquoi t'es agressif?
Si. Il aime pas se faire quitter.
Voilà, moi j'en ai connu qui m'ont dit mais t'inquiète pas, tu vas me remplacer.
Et tu les as remplacés.
Oui, mais la douleur.
Ah,
tu fais fi de la douleur. Moi je supporte mal l'abandon.
Ah non, on va pas tous pleurer.
Non, ça va, c'est ton choix, sois heureuse et puis on se donne 2 semaines pour trouver une nouvelle personne.
Ouais, voilà. Ça m'a mis à peu près ça aussi, 2 semaines.
Et si la nouvelle est nulle en théâtre,
alors
elle va devoir jouer dans les confs de rédac.
Non mais attends, je te rappelle qu'elle aussi au début, elle était nulle.
Oui, mais justement, on a mis 1 an et demi à leur faire avoir un petit niveau.
Ça va, merci. Bon écoutez, on verra ça plus tard, on va faire d'abord une belle dernière émission pour toi. Aujourd'hui.
Okay. Ah, c'est gentil, vous allez me manquer.
Voilà. Et après l'émission, on fera une grande fête pour ton départ.
Ouais.
Ça vous fait plaisir que je m'en aille, vous fêtez ça?
Mais non, ça va,
je suis extrêmement déçue. C'est bon, je me casse.
Enfin.
Toutes les mêmes.
France Inter et bienvenue dans les florilèges de printemps. Nous avons choisi les meilleurs de toutes les émissions.
Ça doit vraiment, en faire du meilleur.
Ça fait beaucoup, beaucoup l'embarras du choix, mais nous avons choisi de réécouter Blanche Gardin qui nous parle GAFA et des parents malmenés par leurs enfants. Et puis nous retrouverons Jean-Claude Carrière en 2015 avec qui on parlera de l'enseignement de l'histoire et aussi de Gérard Depardieu qu'il a connu depuis le café de la gare où il avait posé cette question. Gérard Depardieu est-il pardonné? Alex, oui. Qui sera là comme chroniqueur?
Eh bien, j'ai des chroniqueurs de 2022. J'ai notamment Thomas VDB avec une chronique sur le film Netflix Don't Look Up, qu'il a appelé Streaming et fin du monde.
Ouais.
J'ai une chronique de Thomas Bidguin, notre storyteller, 22, Flal 22. Donc ça, si c'est pas en 22, je sais pas comment vous le dire autrement. Et Frédéric Fromet qui chantera PCR particulier. Et ça, c'est sûr qu'en 2016, on savait pas ce que c'était qu'un PCR.
Ouais.
Mais d'époque, j'ai Guillaume Meurice qui avait demander aux Français leur avis sur un certain François Hollande. Vous vous souvenez?
C'était un
président de la République. Et bien sûr, un sketch. Guillaume et moi, nous avons fusionné Cyrano de Bergerac et Henri Guénaud à l'époque. Voilà.
Bah oui, François Hollande, évidemment, on va en parler. Ça revient en 2016. C'est cette époque-là où on recevait Blanche Gardin. Alors on l'écoute, c'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes la vraie Blanche Gardin d'abord?
Non, c'est vrai, j'aurais pu m'appeler Eknalb Nidrag, qui est mon nom à l'envers. J'ai préféré dire mon faux nom.
Blanche Gardin, on peut vous voir sur scène, c'est à la Nouvelle Scène. Je parle toute seule, c'est le nouveau spectacle. Et il y a eu récemment dans la salle un certain Guillaume Meurice et même un certain Thomas Bideguin. Donc je laisse vous cuisiner.
Non, effectivement, on est allé avec Thomas dimanche soir.
Alors le but c'est pas de raconter votre vie, c'est de poser des questions.
Et c'était sympa, on a pris un cocktail et tout. Non, le spectacle de Blanche, évidemment on le conseille, évidemment c'est très bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est très cash, c'est très trash et c'est très drôle. Est-ce que le terme de conteuse trash, ça vous va? Parce que c'est du vrai stand-up, c'est-à-dire qu'on est dans la plus pure tradition de Blanche toute seule derrière un micro qui dit un texte, c'est très épuré, il n'y a pas de mise en scène particulière à part celle-là. Est-ce que conteuse trash, ça vous va?
Mais j'adore tout ce que tu diras.
Ah, c'est vrai, parce que j'avais pas d'autre truc. Est-ce que ça vous plaît plus de choquer ou de faire rire? Ou les deux en même temps?
Ah non, j'aime pas du tout choquer. Je déteste le malaise en général. J'essaye pas de mettre mal à l'aise les gens. Mais c'est vrai que j'aime quand même soulever des couvercles, de thèmes qui sont peut-être un petit peu première vue désagréables, comme bah, la mort ou la violence dans la sexualité ou des choses comme ça. Mais
ou mettre des crayons à papier dans l'anus des
mais
chats.
Mais c'est justement plutôt voilà.
Ouais, bah, par exemple. Ouais.
Mais c'est justement plutôt par esprit de voilà de dans une volonté en tout cas de communier avec les autres sur des sujets a priori désagréables. Donc pas du tout pour choquer, au contraire pour qu'on se sente tous.
On repart plus heureux ou plus inquiet?
J'espère plus heureux.
Pas si vite.
Tout va trop vite.
Bien trop vite.
Tout va si vite.
Pas si vite.
Tout va trop vite.
Ralentissons, pas si vite. Allez, allez, allez.
Allez, ça va aller.
Allô, tempo, piano. Va piano, va sano.
De Jojoa et Lieutenant Nicholson sur France Inter, où vous écoutez les florilèges de printemps de Par Jupiter. Nous revenons donc à l'époque en 2016. On poursuit la discussion avec Blanche Gardin. Blanche, on va aborder avec vous le premier sujet. Un gros dossier. Tiens, la justice américaine veut accéder au contenu crypté d'un smartphone. Dans le dossier de la tuerie de San Bernardino, 14 morts revendiqués par Daesh, le FBI veut accéder au contenu, mais Apple ne veut pas donner la clé, car cela pourrait permettre plus tard d'accéder au contenu de n'importe quel iPhone. Et c'est vrai que dès l'enfance, pourtant on apprend ça, on s'échine à garder nos données secrètes.
Cher journal, si je t'écris, c'est qu'il n'y a qu'à toi que je peux confier tout ce que j'ai sur le cœur. Depuis que j'ai repris l'alcool dans les céréales le matin, je me sens isolée et incapable d'en faire part aux autres. C'est à cause de mon dernier avortement, mon tout premier en fait. Le père, c'est le prof de bio. D'ailleurs, il m'a déçu en tant que spécialiste des sciences de la vie de la Terre de ne pas m'avoir mieux expliqué. Mais bon, c'était un bon coup. Et si je n'avais pas braqué la supérette pour payer l'intervention, pas savoir où j'en serais aujourd'hui. D'ailleurs, leur faire penser à me régler les dernières passes. Ça va, je suis pas Mère Teresa non plus, hein. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est beaucoup plus grave. Si ma mère lit ça normalement, elle aura succombé à une crise cardiaque dès les premières lignes. Ça serait dommage qu'elle ne sache pas que tu n'es pas un vrai journal. Tu es un journal exprès pour les curieux lecteurs qui ne savent pas ce que le mot secret veut dire. La curiosité est un vilain défaut. Ah lol, MDR smiley.
Un extrait de Parents mode d'emploi. Oui. Que vous co-écrivez, Blanche Gardin, vous participez à Parents mode d'emploi. Alors, pour en revenir à ce sujet, qu'on peut résumer un peu comme Apple versus le FBI et la protection des données, est-ce que vous, par exemple, dans la vie quotidienne, vous avez souci de protection de vos données, un souci de ne pas vous faire fliquer, en vous en pas géolocaliser par votre téléphone ou
ce genre
de choses?
Non, j'ai pas tellement ce souci-là. En fait, c'est vrai que je me fais pas beaucoup d'illusions depuis que je vis avec un ordinateur. Je sais quand même, voilà. J'essaie de lui donner le moins possible à manger quand même. Après, c'est pas tellement par peur de flicage. Je suis pas trop rentrée dans le truc, surtout. Mm-hmm. Je suis partie de cette génération qui est un peu un pied à moitié dedans. Mais c'est vrai que je suis pas dupe et je sais très bien que le premier geste d'Obama le matin, c'est de pirater mon iPhone pour se branler sur mes photos de vacances. Mais en même temps, comment lui en vouloir, je veux dire. Ça fait longtemps qu'il est avec Michel.
On aimerait tous pouvoir le faire.
Ouais. Que Apple ne veuille pas donner les clés et aider la justice à décrypter le portable d'un terroriste, est-ce que ça suscite des réactions autour de cette table?
On attend la réaction de Google, surtout, qui, elle, n'a rien dit pour l'instant. Ouais. Alors, on va voir. Ouais.
Bah, non, mais ça... Parce que Apple ou Google, ils ne se gênent pas pour nous espionner, quand même.
A priori, c'est louche. Moi, je dirais que c'est quand même louche. Je dirais que j'attends la suite.
Hashtag complot.
C'est louche qu'on nous en parle. Oui, c'est louche qu'on nous en parle, parce que d'habitude, ils regardent gentiment. S'ils pensent que c'est nécessaire, ils anticipent le problème. Ouais. Eh bien, bon dans le temps, Charline, on quitte Blanche Gardin en 2016 pour retrouver Thomas VDB en 2022. Vous l'aviez vu, ce film avec Leonardo DiCaprio sur Netflix,
Don't
Look Up? Eh bien, si vous l'avez vu, vous allez rire. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez peut-être envie de le voir. On écoute Thomas VDB.
Oui, les amis, eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du film Netflix dont tout le monde parle en ce moment. C'est Don't Look Up, Regarde pas là-haut. Pour ceux qui parlent pas anglais, avec Leonardo DiCaprio, pour ceux qui parlent pas italien, Leonardo DiCaprio. Alors, Don't Look Up, c'est un film sur des scientifiques qui disent aux dirigeants que ça va être la fin du monde de façon imminente, et les dirigeants ne font rien. Et donc, en le regardant, le film, on se dit, mais c'est des tarés! Mais en même temps, ça fait du bien de se dire ça en regardant une fiction, parce qu'habituellement, c'est exactement ce qu'on se dit, mais en regardant les infos. C'est vrai que là, ça fait quand même du bien. Et le film est vraiment super, parce que j'en parlais à un pote qui me dit, ah ouais, je vois, c'est une métaphore sur le changement climatique. Et il a dit, et vraiment exactement comme ça. Je sais pas si ça aurait été possible de le dire avec un ton encore plus cynique et condescendant. Parce que les gens qui parlent de façon désabusée, pourquoi pas, mais quand c'est pour parler de la fin du monde, c'est un peu énervant quand même. Genre, ah ouais, ok, on va mourir dans d'atroces souffrances, so what, changer de disque, un peu, wow. Parce que c'est vrai qu'en prenant ce ton pour parler, tu peux tout trouver nul. Tu peux dire, ah t'aimes le foot, ah ouais, je vois, les gars qui courent après un ballon pour taper dedans, ça marche avec tout. Ah ouais, t'aimes le cache-cache, compter derrière un arbre, attendant que tes potes aillent se planquer. Voilà, ça dépend des activités qu'on a, mais ça marche tout le temps. En tout cas, le succès du film, eh ben, il est encourageant. Parce que la majorité des commentaires sur Internet disent la même chose. Les gens disent wow, ça montre hyper bien l'inaction et notre l'inaction des gouvernements face à l'urgence écologique. Et d'ailleurs, ils sont un peu frustrants, ces commentaires, parce qu'on a envie de leur dire ok, ben du coup, on fait quoi? Et les gens, ils sont wow, on se rend vraiment trop bien compte de la gravité. Ah, ok, mais donc on fait quoi précisément? Et donc, il y a plein de gens qui reprochent à côté de ça à Leonardo DiCaprio de faire un film écologique sur Netflix, alors que le streaming, ça pollue à fond. Et c'est vrai que c'est pas très écolo, on va dire, quand même, de la part de Leonardo DiCaprio, qui en plus, dans un autre film, a déjà tué un ours. Alors, mais on le sait tous, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai, le streaming, c'est hyper énergivore. D'ailleurs, pour limiter l'impact environnemental, regardez le film à plusieurs. Faites du covisionnage, voilà, comme ça, c'est quand même moins polluant. Et parce que pour DiCaprio, évidemment, qui est hyper engagé dans les questions écologiques, quand on lui propose un tel projet, ben, c'est un dilemme pour lui de jouer dedans. Parce qu'il fait un film qui participe activement au réchauffement, mais apparemment, qu'est-ce qu'il s'est dit, Leonardo, s'il fait, tant pis. Il a dit tant pis, comme ça. Alors, c'est pas cohérent, mais il fait ce qu'il peut. C'est vrai que c'est dur d'être cohérent tout le temps. C'est un peu comme moi, fine fleur de l'islamo-gauchisme de France Inter, qu'on me propose de jouer dans une série Canal. La partie de mon cerveau qui détient l'information que la chaîne appartient au groupe Bolloré passe encryptée. Avant, je suis là, d'accord. Allez, ouais, je suis pas le décodeur. J'ai pas le décodeur. Désolé, voilà. Alors, vous allez me dire, mais attends, mais tu te compares à DiCaprio, Thomas? Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, regarder des photos de nos ventres il y a 10 ans, on a la même évolution. Vraiment, on a gonflé exactement de la même façon. Et puis, excusez-moi, mais si on fait le calcul en mettant en parallèle l'impact positif qu'aura le film Don't Look Up sur les consciences et la nuisance que représente le fait que Leonardo DiCaprio soit pas cohérent en tournant dedans, mais le résultat, excusez-moi, mais alors là, attendez, parce que j'ai une calculette, je prends ma calculette, je divise par le nombre d'électeurs écolo, voilà, donc le résultat, c'est 1,2. Et voilà, c'est quand même plutôt positif, 1,2. Alors ok, on ne sait pas exactement ce que ça représente, mais c'est ça l'avantage. Même si c'est un impact négatif, ce n'est pas énormément négatif. Bon. Je n'étais pas sûr de cette blague. Voilà.
Mais bon. Il y avait l'accessoire calculette.
J'ai prévu une calculette.
C'est très chouette. Moi.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut... c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire du streaming éco-responsable, eh ben moi, je propose revenons au théâtre forain, au théâtre de forain. Comme ça, on peut dire, oh, hier, j'ai vu un truc avec Matt Damon. Il est venu faire Jason Bourne 3 sur la place du village. Je peux dire, on l'a commandé sur Uber Théâtre. Il est venu en âme. On lui a mis 3 étoiles. Ah, mais je lui ai mis, j'ai mis 2 euros de pourboire. Vraiment, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien. Don't Look Up, c'est vraiment une fiction catastrophe qui fait bien flipper. Et c'est ça qui est fou, parce que si on regarde les documentaires sur l'écologie d'il y a 20 ans, ils parlaient des trucs qui allaient arriver dans 50 ans. Donc les choses graves qu'ils prédisaient, elles semblaient tellement éloignées qu'aujourd'hui, quand on les regarde de nouveau, ces documentaires, ils ont un côté presque rassurant. Moi, pendant les vacances, j'ai re-regardé Une vérité qui dérange de Al Gore qui date de 2006. J'ai une boîte pied en éventail, c'est tranquillou, bilou. Vraiment, je trouvais ça magnifique. On avait des belles images de la banquise à l'époque. C'était quasiment la cuisine over. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rapproche de l'échéance. Et c'est la première fois, finalement, qu'un film catastrophe a autant une valeur documentaire. Parce que Armageddon, on se disait en le regardant, oh là, si ça arrivait, on serait mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde Don't Look Up, on se dit, oh là, quand ça va arriver, on va être sacrément mal.
Merci Thomas VDB et sa calculette. Eh bien, après cette chronique de VDB qui date de 2022, revenons donc 6 ans en arrière.
Vous avez calculé.
Et nous étions sous Hollande, 2016, avec Blanche Gardin, un sujet intitulé « SOS, mon enfant est un tyran ». On va aborder avec vous le deuxième sujet, un sujet à lire dans Libération aujourd'hui. L'hôpital Saint-Éloi de Montpellier a ouvert une consultation pour les parents malmenés par leur mioche. Les médecins mettent en place des stratégies de résistance non violente. Voilà, je vous donne un contre-exemple.
On se mouille juste les genoux, et si ça te plaît pas, on sort, d'accord?
Mais j'ai dit non, fiche-moi la paix à la fin!
Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé, de merdeux, qui chie à sa race toute la journée! Voilà ce que t'es! Connard! Connard!
Nos jours heureux. Voilà le contre-exemple.
Tous les gens qui nous écoutent en famille dans leur voiture, vous voyez, il y a pire.
Alors, la tyrannie des enfants, ça peut être jusqu'à une tragédie quotidienne, étant donné qu'on en est au point d'ouvrir une consultation à l'hôpital. Ça se passe donc à Montpellier. Et dans Libération, Marcel Ruffo, le pédopsychiatre, explique, de manière plus générale, que les parents cherchent en ce moment... dans le monde actuel, d'abord à séduire avant d'éduquer. Alors, vous qui notamment aussi écrivez pour Parents Mode d'Emploi et qui abordez un peu ces thèmes des enfants dans votre spectacle Blanche Gardin, j'imagine c'est une question que vous observez, vous avez un regard sur l'éducation en général des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu envie de donner une bonne claque à un gamin?
Ah oui, oui, très souvent, mais moi, je n'ai pas d'enfant et je dis tout le temps qu'il ne faut pas faire d'enfant parce que je milite pour la ligature des trompes et la vasectomie généralisée. Ouais. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber quand on a un enfant. On peut avoir un républicain, un chauve, un djihadiste. On ne sait pas sur qui on va tomber. Donc
ça fait flipper.
Donc vous n'accordez aucune valeur à l'éducation. C'est-à-dire que c'est la chance.
Je n'accorde aucune valeur au renouvellement des générations. Il faut arrêter ça.
Mais on demande aux gens des solutions sans les thunes,
c'est ça.
Alors, est-ce que c'est la bonne?
Ce qui est très amusant, c'est que vous co-écrivez Parents Mode d'Emploi, qui est un super programme.
Oui.
Mais alors, comment vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous observez, vous êtes sociologue, je rappelle, vous avez un DEA de sociologie. J'imagine, est-ce que vous voyez passer ces articles dans la presse sur les questions d'éducation, etc., ou c'est vraiment le fruit de votre imagination?
Non, c'est le fruit de mon imagination. Ah bah après, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des enfants et justement, c'est passionnant d'être extérieur à ça, de pas du tout avoir un rapport affectif avec ces questions d'éducation parce que on voit les gens faire des conneries et on a des discussions passionnantes avec mes frères et sœurs qui en ont parce que justement je suis pas dedans moi. Ouais. Donc
vous voulez passer au scanner un petit peu.
Oui, j'ai passé au scanner et puis.
Et il y a déjà un décalage. Le décalage produit dans l'écriture vient aussi de votre observation, parce que vous êtes un peu un pied dans le système, un peu en dehors du système de l'éducation.
Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais j'adore les discussions sur l'éducation, d'ailleurs, parce qu'on peut s'enflammer très très fort Sauf qu'il y a pas du tout de personne peut vous contredire parce que c'est pas des sciences, enfin c'est pas des maths quoi.
Je vous avais donné un conseil tout à l'heure aux gens qui n'en ont pas encore hein, de se ligaturer des trombes et de vasectomie. Pour les gens qui en ont déjà en bas âge, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ce qu'on peut faire, c'est la correction physique apparemment c'est puni maintenant, on a
oui,
une amende.
La fessée, ouais.
Peut, soyez discret, on peut, c'est mes conseils.
Ouais. Discret.
Le bottin.
Écoutez, un père de famille.
Il y a un conseil de Dolto que je trouve assez étrange. Justement, pour éviter la correction physique, elle dit qu'il faut prendre un objet qu'on a à côté de soi, comme ça, quand on a envie de taper le gamin, et puis taper dans l'objet, comme ça, et dire au gamin, regarde ce que j'ai envie de te faire. Et j'ai toujours trouvé ça très bizarre, parce que c'est presque plus violent, en fait. Ouais. Parce que, au moins, quand tu tapes un gamin, bon, il est inconscient, après, il se rappelle plus.
Ne prenez pas le frère du gamin, son enfant. Ouais.
L'effrayer.
Plein de bons conseils, car c'est aussi ça, le service public. C'est la mi-temps de cette émission déjà, c'est le moment.
Meurice, bien évidemment, pas d'exception, même en période de florilège. Et là aussi, on essaye de voir s'il a progressé. Donc on retourne en 2016, il était allé demander aux Français ce qu'ils pensaient de François Hollande, car ce dernier était en interview le matin même sur France Inter. On écoute ça.
Mais écoutez, la pression monte dans les couloirs de France Inter. Dans moins d'une heure, il sera sur cette antenne le président de la République. Laurence Bloch, notre directrice, a refait son brushing. Toutes nos pensées vont à la famille du coiffeur. Mort d'épuisement durant l'opération. Mathieu Gallet a spécialement affrété son carrosse intérieur ronce de palissandre. Nicolas Demorand, qui mènera l'interview, a mis son plus beau sweat à capuche. Tout le monde est prêt. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on reçoit le sosie officiel de Julio Iglesias. Alors, bon, évidemment, François Hollande est aussi chef d'État, mais ça, on sait tous que ça tient plus du malentendu. Si toutefois, malentendu est synonyme d'agression sexuelle sur femme de chambre. Mais bon, passons. L'idée de cette chronique, c'est de préparer vraiment François Hollande, qui certainement nous écoute et que l'on salue, le préparer donc à ce qui va se passer dans une heure. Ce question-réponse avec des Français dont je suis allé à la rencontre ce matin, et j'ai concocté à François ce que j'appelle un petit crescendo des réactions auxquelles il va être confronté. Alors on commence doucement avec une Française qu'il aime bien.
C'est un brave homme.
Vous trouvez ?
Qui est dépassé vraiment par les choses. Il voudrait bien faire, il ne peut pas. Non, moi je suis pour.
Vous trouvez qu'il a une action efficace ?
Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas sa faute.
Mais alors c'est de la faute à qui ?
Oh ben c'est la vie actuelle, vous savez.
Donc s'il est inefficace, c'est de la faute à la vie.
Absolument.
Voilà, c'est la faute à la vie. Et François, si tu nous écoutes, je te conseille d'en faire ton élément de langage principal. Comment voulez-vous que mon action publique soit un succès alors que je suis sans arrêt confronté à la vie? Si la vie n'existait pas sur Terre, je serais davantage efficace. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Alors, on continue ce petit crescendo avec quelqu'un qui t'aime bien aussi, François. Pourquoi?
Propos des retraites, je l'aime bien.
Et si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui poserai des questions, je noterai, je prendrai note.
Et quelles questions vous lui poseriez ?
Sa vie de famille, question de sa vie de famille.
Ah, ça vous intéresse ?
Ouais.
Pourquoi ?
Pour savoir où il en est.
Mais ça va avoir un impact sur votre vie quotidienne, vous pensez ça ?
Ouais.
Genre de savoir s'il est célibataire, s'il met des chaussons le soir quand il rentre ?
Ouais.
Tout ça, ça vous intéresse ?
Pour savoir pourquoi il a eu Julie Gaillet dans sa vie.
Et après ça, qu'est-ce que vous lui demanderiez ?
C'est tout.
Voilà, donc si Nicolas Demorand nous écoute, voilà une question qui intéresse en tout cas une partie du peuple de France. À défaut de rebosser à Libération, Nicolas, une petite place de pigiste à Closer te tend les bras. Quant à François, alors je lui demande de bien s'accrocher. On continue toujours dans le crescendo avec une Française qui l'aime un peu moins.
Je le trouve très mal habillé, très... Non, il n'y a aucune allure. Quand on est de mon âge, mon modèle, c'était Giscard, quoi. Et ça l'est toujours, mais bon.
Vous seriez plus séduite par Giscard ?
Ah, complètement. Non seulement par son intelligence, et puis effectivement, la prestance physique, si on peut dire. C'est pas ce qu'il y a de plus important, mais effectivement, ça rajoute quand même la cerise sur le gâteau.
Oui, sur le gâteau, en l'occurrence, puisqu'on parle de Giscard. Mais bon, voilà, une remarque qui peut être entendue par François Hollande, travailler sa prestance. On continue, on progresse, on avance dans l'impopularité.
Il est bon à rien.
Ah oui, bon à rien.
Presque. Je suis pas en photo là-dessus, Vous n'allez pas me passer en photo à la télé, surtout.
Ah non, c'est la radio.
D'accord.
Ah, ça veut dire que vous n'assumez pas ?
Non, il est incapable. Ça sera mieux. est incapable.
Voilà, incapable. C'est mieux que bon à rien. Alors là, ça peut intéresser François Hollande, pas sur le fait qu'il soit incapable, hein, ça je pense qu'il est au courant, mais sur l'état de courage du peuple français qui veut bien dauber sur François Hollande, mais de manière complètement anonyme. Elle ne veut pas passer à la télé, donc t'es peinard. La Révolution, François, c'est pas pour tout de suite avec des gens comme ça. C'est comme si Robespierre avait dit « Allez, tous à la Bastille !» Mais citez pas mon nom, parce qu'après c'est chaud, si je veux retrouver un boulot, ça va m'emmerder. Bon, mais ne prends pas trop la confiance quand même, François. On continue toujours dans le crescendo avec un Français à qui j'ai demandé ton principal point positif.
Aucun. Voilà. Aucun. Il est moche, il est gros, il est petit, il est pas très aimable. Ce qui est le plus grave.
Ça, c'est des arguments de fond.
Oui, non, ça, c'est des arguments. C'est pas des arguments, mais ça, c'est des arguments qui n'ont pas lieu de faire, mais crétin, carrément.
Voilà. Donc là, au niveau du débat, on n'est pas hyper haut dans l'argumentation, mais au niveau du crescendo, je me suis pas foutu de votre gueule, hein, quand même. Là, on est pas mal. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est ça la question. Remonter encore d'un cran dans la cote d'impopularité? La réponse, évidemment, est oui. Avec le dernier Français, un conseil pour François Hollande.
Qu'il continue comme ça. Comme ça. Au moins, on fait table rase à la Daesh et on recommence tout à zéro. Une nouvelle civilisation.
Vous pensez qu'il a la même action que Daesh?
Vis-à-vis de la France, oui.
Voilà, et ben, écoutez, je crois que François est prêt à répondre aux Français. Nous, en tant que citoyens, on a sans doute les dirigeants qu'on mérite. Et à bien l'observer, finalement, je crois bien que François Hollande a le peuple qu'il mérite.
Merci Guillaume Meurice. Tout est dans la nuance, hein, je vois dans le... Hein,
c'est la préparation.
Ouais, c'est ce qu'il allait chercher, c'est Français Guillaume Meurice.
C'était dans la rue, c'est des Français de la rue.
Et vous ne mettez pas beaucoup de temps en plus. Enfin, vous partez, non, c'est le jour même, c'est frais du jour.
C'était ce matin.
Et là, en 3-4 heures, bim, il y a un gars qui vous dit il fait comme Daesh.
Ouais, en 2 heures même, j'ai mis 2 heures en tout, je crois.
Intéressant. Ouais. Si on fait un petit calcul, ça fait un petit peu...
Mais parlez, je vous encourage à parler avec les gens autour de vous, vous allez avoir peur.
Get it.
Sharona par The Knack sur France Inter où vous écoutez les florilèges de par Jupiter, florilèges de printemps. On va revenir en 2015 puisqu'on écoute vraiment le meilleur de toutes les émissions.
C'était nos tout débuts.
Ouais, les grands crus classés. Et évidemment, fait partie Jean-Claude Carrière qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à réentendre.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
La dernière actualité de Jean-Claude Carrière, c'est cet ouvrage, Utopie, quand reviendras-tu ? Des entretiens avec Gilles Van der Potten, que nous prononçons bien car nous sommes belges, j'imagine.
Je crois.
Ah, je le confirme.
Sous-titré Vers une folie salutaire, c'est publié aux éditions de l'Aube. Vous avez notamment la dent dure avec le politique, et pourtant il s'agit aussi d'Utopie, c'est bien le titre de votre ouvrage. Clara Dupont-Menot.
Oui, parce que dans votre livre, Jean-Claude Carrière, il y a, dans votre titre, pardon, il y a le mot utopie. Et pourtant, vous vous dites assez distant de la politique. Vous n'avez jamais été militant, vous n'avez jamais été encarté.
Non, j'ai toujours eu des opinions plutôt de gauche. J'ai toujours voté pour ce qui me semblait bon, mais je n'ai jamais eu une carte, en effet, de quelque parti que ce soit.
Et pourtant, il y a utopie dans votre titre.
Parce que vous savez, l'esprit de parti n'est qu'une partie de l'esprit.
Oh, bim!
André Manoukian prend des notes d'ailleurs.
On a mis de la barre très haut.
C'est vrai que Bernard Minet, il n'a pas dit un truc comme ça. Mais bon, ouais, il a fait Bioman. Ouais.
Mais pourtant, vous mettez Utopie dans votre titre. Utopie, quand reviendras-tu?
Oui, j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait Les années d'Utopie, que j'ai vécu en grande partie à New York en 68, 69, 70, et qui sont la dernière utopie que nous ayons vécue, celle des hippies. Il suffisait de se coucher dans l'herbe, de fumer un joint, et le monde allait changer.
Et de pas se laver aussi, hein, oui, on va dire. C'était surtout ça, l'utopie.
Moi, ça, il y en a d'autres qui ne se lavent pas.
C'est vrai.
Vous avez été écologiste pendant un moment, vous dites
oui,
que...
Oui, j'ai été avant ça, dans les années 67, 68.
À Terre des Hommes, notamment.
Fondateur de Terre des Hommes, oui.
Ah, pourquoi vous ne l'êtes plus?
Je le suis toujours.
Ah, voilà.
Je le suis toujours, mais je ne vote plus écologique parce que je trouve que... Les écolos, à force de nous mettre en garde, à juste titre, contre toutes les pollutions et contaminations qui nous entourent, se sont laissés gagner par la pollution politique. Je trouve qu'ils ont pris des mœurs, des coutumes, des rivalités, qui sont celles que, pratiquement, ils critiquaient auparavant.
Donc ils ont appliqué ce qu'ils dénonçaient.
Exactement.
Salut Jean-Vincent Placé.
On parlait
d'écologistes.
Vous parlez dans le livre d'agressivité même de la part des écologistes.
Ah, il y a même un terrorisme écologique.
Un terrorisme vert.
Aux États-Unis, ça existe, le terrorisme vert. Et ça nous menace comme tous les terrorismes.
La menace est quand même légère.
L'écologie est un sujet tellement vaste qu'il est très très difficile de l'aborder. Même, il faudra parler du pape à l'occasion.
Oui, bien sûr, évidemment. Alors, à côté de la menace Khmer Vert, il y a aussi la menace entre guillemets FN. Mais alors, vous dites quelque chose d'assez intéressant dans votre livre.
Qui est un peu plus menaçante.
Un peu plus menaçante.
On ne peut pas vraiment mettre les deux sur le même niveau.
Non, mais je sais, Guillaume Meurice. Mais voilà. Vous dites notamment que vous proposez en fait que le FN soit au pouvoir pendant 2 ou 3 ans. Et vous dites, on verra bien ce qui se passera.
On le sait déjà. On voit déjà le résultat. Et je crois que c'est souvent la meilleure façon de discréditer à jamais telle ou telle tendance politique, voire artistique. Là, c'était, mettons le FN au pouvoir, 3 ans après, la France est dans les rues.
Mais ça s'est déjà passé à Orange, par exemple. Et regardez, ça n'a pas empêché les gens de se rallier au FN.
C'était pas vraiment le pouvoir national, là. C'était quand même un pouvoir...
municipal.
Restreint, oui.
Dont il faut encore faire le bilan. Parce que...
Bah oui, c'est ça, ça a été fiasco quand même.
Non, mais il est réélu aussi.
Il est réélu.
C'est le problème. Je ne vais pas vous contrarier dans vos opinions.
On discute.
Si ce sont les vôtres.
Vous savez, il y a plein de truffes qui sont réélus.
On en connaît.
Nous sommes avec vous jusqu'à 18h et on retapisse l'actualité, vous l'aurez compris. Alors, premier sujet, à Versailles, les correcteurs du bac d'histoire sont priés d'être indulgents, même pour les copies dont le plan est foutraque. C'est ça, l'égalité, c'est mettre à portée de tous la mention « très bien ».
On nous a dit que notre fils était un surdoué. Avec sa mère, on s'est demandé d'où ça lui vient, ça. C'est quand même pas avec nous qu'il l'a attrapé. L'institutrice m'a dit ça a peut-être sauté une génération. Pour monter dans votre arbre, une famille, c'est comme un chêne. Mais c'est un effort pour réfléchir. Dans notre chêne, il y a pas mal de blancs. Mais on n'a pas de surdoué. gagné le premier surdoué. C'est pas rigolo.
Guy Bedos, surdoué. Alors, les académies craignent toujours de se situer au bas de la moyenne, au terme du bac. Et en fait, comme un candidat au bac craint de ne pas avoir la moyenne. Et tout ça, ça vient des classements. Versailles était 22e dans le dernier classement, mais c'est Versailles, quoi. En histoire géo, ça la fout mal. Derrière la Corse, ça la fout mal.
Et donc,
il a été demandé au correcteur de l'épreuve d'histoire géo d'être indulgent avec la forme des copies. Ça sous-entendrait que la capacité à faire un plan ou à prendre une distance critique, c'est moins important que la connaissance.
C'est tellement ridicule. Alors, baisser le niveau de l'examen pour faire croire que leur société, hein,
qu'on est les meilleurs. Mais c'est Versailles, Jean-Claude Carrière.
Il faut dire que l'enseignement de l'histoire, moi j'ai une formation d'historien à la base, est devenu impossible. Parce que chaque pays raconte l'histoire à sa façon. En ce moment, en Chine, on apprend aux petits Chinois que le Tibet a toujours fait partie de la Chine, etc. Vous voyez, en Turquie aussi, je crois que l'enseignement est très, très discutable.
Oui, oui, les Arméniens ont massacré les Turcs. Oui,
on apprend même qu'André Manoukian est un philosophe français.
Et les Turcs étaient là dès l'époque romaine.
Oui, quelque chose comme ça, partout dans le monde entier,
y compris chez nous.
Qu'est-ce que vous pensez des récentes critiques sur la réforme du collège, avec notamment l'enseignement d'histoire, à qui on reproche d'être trop tourné vers le côté repentance, mémorielle, victimaire.
Vous avez des élèves en France aujourd'hui dont les parents sont en grande partie d'origine africaine, maghrébine, ou comment on leur parle, on veut leur faire aimer leur pays, qui est la France. Comment on leur parle de la colonisation? On ne peut que leur mentir. Si on leur raconte ce qu'on a fait chez eux, à leurs parents et grands-parents, comment voulez-vous qu'ils aiment le pays qui leur enseigne ça? C'est pas possible. Vous voyez, il y a une série de contradictions. Moi, je connais pas mal de professeurs d'histoire qui ne savent pas comment faire et qui cherchent des ruses, qui cherchent des à peu près, qui occultent certains événements. C'est très, très difficile, surtout l'histoire contemporaine. Bon, que l'histoire de Jules César, si c'est pas tout à fait exact, on s'en fiche. Mais encore.
Vous conseillez de mettre ça sur les copies aux lycéens, mettre, de toute façon, on peut pas savoir, donc.
Non, mais ce serait le début d'une réflexion sur la discipline historique.
C'est l'heure d'une nouvelle chronique, Charline, et c'est Thomas Bidguin qui s'y colle. C'est sa toute première chronique de 2022. Il nous présentait cette année. Est-ce qu'elle ressemble à ce qu'il avait prédit? On écoute.
Un scénariste qui détricote le storytelling des autres. Voici Thomas Bidguin.
Oh là, d'accord, ben donc c'est à moi. Génial, voilà. Et c'est le début de l'émission et le début de l'année. Tout le monde parle de ce début d'année. C'est le début de l'année, oui, mais laquelle? On ne sait plus trop parce que, bon, ça, elles finissent pas toutes par se ressembler un peu. On nous dit 22. Pourquoi pas? À mon époque, on disait 22 Lévla. Vous savez ça? Hey, 22, Lévla! Ben, 22, on y est. Mais Lévla qui? Voilà. Eh ben, au vu de l'actualité de ce mois de janvier, les mêmes. Enfin, plutôt les mêmes. On aurait rêvé d'un coup d'essuie-glace 21-22, mais non, rien. On fait plutôt du surplace. Heureusement qu'ils appellent ça un variant, parce que tout le reste est assez inchangé. Et c'est pas Valérie Pécresse qui va nous réveiller. Elle a annoncé la composition de son orchestre. Que des hommes, et pas les plus frais. Donc, on dirait une sortie de boîte en province à 4h du matin. Dans un souci de cohérence, son cabinet fantôme est uniquement composé de revenants. Donc, Copé. Non mais... Copé, quoi. Ouais. C'est marrant. C'est marrant comme autour des candidates à la présidentielle, on voit jamais que des hommes. Les candidats, eux, ils sont un peu au moins obligés de choisir des femmes, ou de poser avec la leur dans Paris Match. Mais les candidates, non, elles sont au-dessus de ça. Même Hidalgo, qui est pas au-dessus de grand-chose, puisque on lui donne 2%. En dessous, il reste la bière sans alcool et Jacques Cheminade. Bon, voilà. Bon, elle a annoncé qu'elle renonçait sa campagne. Ça faisait bien 3 ou 4 jours qu'elle n'avait pas annoncé ça. Enfin, voilà. On se dit qu'on aura peut-être du neuf avec Taubira. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Taubira? Eh ben, elle hésite. Et ça fait quoi? Ça fait une petite vingtaine d'années qu'elle hésite. On l'adore, Taubira. Mais vraiment, moi, je l'adore. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'elle peut sûrement faire mieux que de hésiter à chaque fois. Mais enfin bon, à ce niveau-là, c'est un choix de vie. Enfin voilà, tout est là, tout est en place, et depuis un moment, l'histoire est prête à démarrer, mais il nous manque quelque chose. Et ce qu'il nous manque, peut-être que c'est de la motivation. Parce que dans le storytelling, les personnages doivent avoir une motivation. Ils doivent avoir un but, ça on le sait. Et un but là, pour ces candidats, c'est assez évident. Mais ils doivent aussi avoir, et surtout, une motivation. Et c'est là que ça devient compliqué. Romain Duris, par exemple, s'il veut construire la Tour Eiffel, c'est pas juste pour entasser des boulons. Non, c'est pour reconquérir un amour de jeunesse. C'est ça, sa motivation. Et sans motivation, l'histoire se réduit juste à son objectif. Et ça, c'est un peu court. On se demande bien ce qui, en ce début d'année, pourrait venir nous remotiver un peu. Il faudrait un personnage flamboyant et inattendu. Il faudrait...
Oh, je sais,
ah,
oui,
il faudrait... Non, mais bien sûr.
Mais non.
Mais Covidou. Oh, Covidou.
La marionnette.
Ouais, voilà. Merci, madame.
Parce que les gens n'ont pas l'image.
Hein. Oui. Ah non, c'est malheureux. Oui. T'as vu un peu l'accueil ? Ringard. Quoi ? Ouais, allez. Ça commence bien, Covidou. Mais j'ai motivé. Bah, t'as l'air en forme, toi, pour ce début d'année. Ah ben oui, c'est la nouvelle vague. Ah oui, Covidou. Et oui, ça te plaît, ça, l'Omicron ? Le port du masque obligatoire partout ?
Ah ben, un peu, ça me plaît. C'est 60 millions de ventriloques.
Ouais, bon, vu comme ça, c'est sûr.
Enfin, 60 millions de ventriloques et il fallait que je tombe sur toi. Tu parles d'une motivation.
Bon, t'as fait quoi alors pour les vacances ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi.
J'ai travaillé.
Ah ouais, t'as travaillé ?
Ouais, comme Charline. J'ai travaillé tout le temps.
Ah oui.
J'ai inventé un truc.
Ah bon, t'as inventé un truc ? Je suis surpris.
Vous avez beaucoup progressé.
Je suis tellement surpris. Tellement surpris par toutes ces réponses.
Il y a une magie.
Ah bon
là.
Ouais, c'est... Moi, je joue le « ah bon ». Ah bon ? T'as travaillé ?
Ouais, j'ai inventé un truc.
Ah bon ? T'as inventé un truc ?
Ouais, j'ai inventé un truc. J'ai inventé le test pré-positif. Ah oui, comme ça, pas la peine d'attendre 20 minutes. On est pré-positif, on gagne un temps fou.
Ah non, écoute, Covid, on peut pas rire avec la Covid, c'est une maladie grave. Il paraît que soit on en meurt, soit on en reste idiot.
Ah, je sais, Visorec l'a eu. Très drôle, merci monsieur.
Très drôle, voilà. Ouais. Et pour la motivation de nos auditeurs, est-ce que t'as quelque chose à proposer ?
Oui. Eh bien, je leur présente, du fond de mon petit cœur, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Oh, ça, c'est génial aussi. Quand même.
Bonne année ! Bonne année !
Et bonne année.
Merci.
Ça va être long et chiant. Merci, Covidou.
Merci, Thomas Bidguin et Covidou. Bientôt en vidéo, bien sûr, pour avoir Covidou. Retour en 2015. À présent, rendez-vous compte, c'était il y a un septennat, avec Jean-Claude Carrière qui évoque Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, il est de retour et il est partout. Par exemple, sur un portrait d'une page dans Le Monde daté d'aujourd'hui et intitulé « Le déraisonnable ». On se demande bien pourquoi.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope ?
Chercher un protecteur puissant ?
C'est pas de politique, moi.
Prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce.
Non, c'est parce que j'ai pissé dans un avion, un passeport russe.
Frappé par ruse au lieu de s'élever par force.
Désormais.
Non, merci.
Voilà. Gérard Depardieu qui revient au cinéma tout auréolé de Valley of Love, présenté à Cannes et encensé par la critique avec Isabelle Huppert. Un très beau portrait par exemple dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Il est partout, Gérard Depardieu.
Il a maigri, hein.
Il a maigri, oui. Alors il y a un très beau portrait, une très belle photo aussi qui date de 2014. Là, c'est l'homme à étiquette, hein, aussi ami des dictateurs, affairiste, évadé fiscal, mais aussi Danton, Obélix, Porto, Cyrano, Vatel, Monte Cristo. Votre Gérard Depardieu, Jean-Claude Carrière, est-ce que vous le reconnaissez dans toutes ces étiquettes ?
J'ai été un des premiers financiers du Café de la Gare. Où j'avais mes entrées gratuites. Donc il y avait Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu, etc. On est restés tous très copains. Et j'avais senti, j'étais pas le seul, qu'il avait un talent exceptionnel. Et je l'ai mis, j'ai demandé à plusieurs de mes copains, à Jacques Deray dans Un peu de soleil dans l'eau froide, à Jean-Louis Buñuel dans Un autre film, de lui donner un petit rôle.
Donc c'est moi qui lui ai donné ses premiers petits rôles avant
les
valseurs. Vous l'avez
mis pied à l'étrier, on peut dire.
Oui, 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 oui. Et chaque fois, il était formidable. C'est un acteur exceptionnel. Moi, je pourrais en raconter sur lui pendant des heures, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Fait Danton, Cyrano de Bergerac, etc.
Mais il y a une passion française pour lui aujourd'hui, parce que au-delà de...
C'est le plus grand acteur du cinéma français, de toute façon.
Il incarne le cinéma français, mais il y a aussi la truculence, le talent mélangé à la provoque, et son regard sur l'actualité et le monde. Oui. Il est très, très sollicité pour ça. Il dit des choses un peu dingues.
C'est peut-être moins...
mais par exemple, dans Le Monde, il explique que je pense que Poutine est le seul qui puisse ressembler à De Gaulle. Voilà.
Oui, 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 oui.
Et en même temps, à côté, il est capable de dire, dans les années 70-80, le cinéma pouvait être en avance sur la société. Aujourd'hui, on est dans la pornographie, en ce sens qu'on ne parvient plus à le distinguer de la réalité. Il n'y a plus de distanciation, plus de véritable indignation.
Oui, ça, il faut toujours se méfier des gens qui estiment que c'était mieux avant.
Oui.
Hein, toujours, toujours se méfier de ça. Gérard, c'est un très grand acteur, mais il faut le maintenir dans son domaine.
Il faut avoir une grille de lecture.
Il parle très, très bien de son métier. Je l'ai amené un soir à la Fémis, devant les étudiants de la Fémis. Ça a duré toute une nuit. Et c'était merveilleux, la façon dont il parlait. Par exemple, quand il dit comment il prend un scénario. Bon, moi, je déchire le papier. Ça, c'est magnifique comme expression. Et je passe à travers. Et c'est vrai qu'il le fait. Il a une façon d'ajouter quelque chose au texte que vous lui offrez qui est exceptionnel.
Comme Manoukian avec ses chroniques. Hein. Et comme Alex Vizorek et Guillaume Meurice, attention,
oui,
comme la comparaison.
Je ne sais pas. La transition est comme vous voulez. En tout cas, vous avez adapté Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Rapneau. Et depuis Cyrano, je crois que la plus grande plume que la France connaisse, c'est Henri Guénaud. Et j'ai décidé de les fusionner.
Une des plus grandes.
Voilà. Donc j'ai décidé de les fusionner. Guillaume Meurice fait Nicolas et je fais Sir Guénaud de Sarkozy. Sir Guénaud, vous manquez. Votre plume fait défaut. J'ai toute mon énergie, mais je manque de vos mots. Voulez-vous, mon ami, reprendre votre travail ? Voilà votre encrier. Et puis, voilà la maille.
Je ne peux refuser en voyant ces millions facturés par deux fois. Remerciez Big Malion. Que vous faut-il, mon brave ? Quel discours pour vous plaire ? Voulez-vous plus du fond ou plutôt du Karcher ?
Qu'importe le contenu, je veux que la France bande. Je ne veux pas du moyen, je ne veux pas du Hollande. Et si quelques JT peuvent dire « la France a peur », je veux être l'homme qu'il faut, qui prend de la hauteur.
Pour prendre de la hauteur, vous venez de bien loin, et vos belles talonnettes n'y feront sans doute rien.
Je suis court, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point l'escabeau sous mes pieds. J'ai été clair, je crois. La feuille blanche est prête.
Je m'y mets de ce pas jusqu'en 2017.
Sir Guénaud, soyez bon, et cette fois plus d'écart. Ne me refaites pas un discours de Dakar.
Quant à vous, Nicolas, plus d'improvisation. Ne me refaites pas le coup du casse-toi, pauvre con.
Entendu, partenaire, nous revoilà unis. L'équipe se reforme pour le grand Sarkozy. Je me sens rajeunir. À la conquête, partons. Il ne me reste plus qu'à convaincre l'ami Patrick Buisson.
Bravo les amis. Et comme dans chaque session de Florilège, Alex, tous les jours, on a le droit à la cerise sur le gâteau.
Le Frédéric Fromet, plus récent, celui-là, évidemment, PCR particulier. Je ne vous donne pas la thématique de la chanson et je ne vous dis pas vraiment qui y parodie non plus.
PCR particulier, cherche partenaire covidé. Si possible, vacciné pour lui souhaiter une meilleure année. Que les Bogdanov. Je suis en test à la recherche d'individus contaminés. J'écouvillonne sans relâche dans les pharmacies assiégées. À vue de nez, c'est très fastoche. C'est le festival de la contagion. Pour les labos, c'est la bamboche. Merci Delta, merci Omicron. Car moi je cherche, je trouve plein de qui sont infectés, et j'interdis les chips dans le train et les concerts de Julien Doré. Ça au moins c'est bien. PCR particulier, cherche partenaire covidé. Si possible, sachant décoder les mesures en milieu scolaire de Monsieur Blanquer. Je reste cool, tranquille, relax, grâce aux experts comme Philippot. Je peux compter sur les antivax pour l'engorgement des hôpitaux. Si on vous emmerde, restez positif. Voyez le bon côté de la crise. À vous fourrer des trucs dans le pif, c'est comme si vous étiez dans le showbiz. Grâce au Covid, on peut assister au théâtre, à l'assemblée. Grâce au Covid, on n'est plus obligé de faire une bise à mémé. Grâce au Covid, on est exempté de la tournée des enfoirés. Ça aussi, c'est bien. Particulier, cherche partenaire covidé. Et puisque ça revient, je suggère de vous nettoyer le blaire au Karcher. PCR particulier, cherche partenaire covidé. Mesuré, calme et lucide, car il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe aviaire.
C'est un tube déjà. Et c'est déjà la fin de cette émission, Alex.
Oh, c'était bien.
Ouais, ça passe très très vite.
C'est on qui se retrouve... demain, c'est qui?
Ben, demain, nous retrouverons Bouly Lanners et Bérénice Bejo, duo d'acteurs.
Oui, sympa.